Laudetur Jesus Christus.
Les chefs de la diplomatie française et allemande en visite à Damas ce vendredi. Ils appellent les nouvelles autorités syriennes à une transition pacifique et inclusive. Sur le plan de l'éducation, le gouvernement a retiré hier un programme qui vise à islamiser les contenus scolaires. Les précisions au début de ce journal. La vie reprend son cours doucement à la Nouvelle-Orléans, deux jours après l'attentat à la voiture Bélier qui a fait 14 morts lors de la mort de la nuit du Nouvel An. Reportage à suivre dans la ville de Louisiane. À suivre également dans ce journal, le divorce qui semble consommé aux Philippines entre le président Marcos et sa vice-présidente Duterte. Et puis nous irons également au Sénégal. Dakar vient d'annoncer l'ouverture d'un champ gazier exploité avec la Mauritanie voisine. Une première pour les deux pays d'Afrique de l'Ouest.
Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
Bonjour. Les pays occidentaux continuent de prendre langue avec les nouvelles autorités syriennes. Depuis ce matin, les ministres allemands et français des Affaires étrangères sont en visite à Damas. C'est une première pour la diplomatie de pays occidentaux. Les deux ministres doivent notamment s'entretenir avec Ahmad al-Sharr, le nouvel homme fort syrien. Ils ont visité ce matin la prison de Sadneya en banlieue de Damas, symbole des crimes du régime de Bachar al-Assad. Jean-Noël Barrot, le chef de la diplomatie française, a lui rencontré des responsables chrétiens de Syrie. La France espère une Syrie souveraine, stable et apaisée, a-t-il confié. L'ambassade tchèque dans la capitale syrienne a par ailleurs ouvert ses portes. C'est elle qui représente les intérêts américains. L'un des enjeux dans cette nouvelle Syrie est l'éducation. Le gouvernement transitoire, dominé par le parti islamiste HTC, a fait marche arrière hier après une controverse sur la refonte du programme scolaire censé introduire une nouvelle coloration religieuse au cœur du système éducatif. La correspondance régionale de Paul Ralifé.
Parmi les principaux changements contenus dans un document de 12 pages publié par le ministère de l'Éducation figurait le retrait de l'enseignement scientifique sur la théorie de l'évolution et l'amputation de certaines séquences historiques. HTC est accusé de vouloir ménager les sensibilités de la Turquie, son principal allié, en faisant l'impasse sur certaines exactions ottomanes à l'encontre des nationalistes arabes, syriens ou libanais. Les changements prévoyaient également l'introduction de nouveaux lexiques religieux, la défense de Dieu se substituant à la défense de la nation et l'éducation religieuse, islamique ou chrétienne, à l'éducation nationale. Autre exemple, un martyr n'est plus quelqu'un qui meurt en défendant la patrie, mais quelqu'un qui meurt pour Dieu. Ces changements, présentés par les autorités comme des ajustements, ont provoqué un tollé sur les réseaux sociaux avec des appels à manifester. Face aux critiques, HTC a fait marche arrière et a annoncé qu'aucun changement ne sera effectué dans le programme éducatif pendant l'année scolaire en cours, à l'exception de la suppression de toute référence à l'ancien régime. Cette victoire a été saluée par les militants pro-démocratie, mais pour les nouvelles autorités, ce n'est que partie remise. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
Et sachez que pour ce premier mois de l'année 2025, l'intention de prière du pape François est justement dédiée à l'éducation des enfants et des jeunes. Dans un monde où 250 millions d'enfants n'ont pas la chance d'aller à l'école, le pape parle de catastrophe éducative. Plus d'informations sur ses intentions à retrouver sur notre site vaticannews.va. L'armée israélienne a intercepté ce vendredi un missile en provenance du Yémen. Le tir a été intercepté par la défense antiaérienne. Les Houthis, les rebelles chiites, soutenus par l'Iran et soutien du Hamas, qui avait déjà lancé la semaine passée deux missiles, le premier visant l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv, le second une centrale électrique au sud de Jérusalem. En mer Noire, une nappe d'hydrocarbures a atteint les côtes de la Crimée, région annexée par la Russie en 2014. Le pétrole a atteint la ville de Sébastopol, où se situe une base de la flotte russe. Le 15 décembre dernier, deux pétroliers se sont échoués et la marée noire continue de progresser. Aux États-Unis, l'enquête du FBI se poursuit deux jours après l'attaque à la voiture Bélier qui a tué 14 personnes à la Nouvelle-Orléans. L'auteur, un ancien militaire qui avait fait allégeance au groupe terroriste État islamique. Il semble avoir agi seul, selon la police fédérale. Sur place, dans les rues de la Nouvelle-Orléans, dans le quartier de Bourbon Street, là où s'est déroulé le drame, la vie a repris son cours. C'est le reportage de notre envoyé spécial Loïc Loury.
À l'entrée de Bourbon Street, des fleurs et des bougies commençaient hier soir à s'accumuler. Cherry, qui vit à 100 mètres de là, est venue avec un bouquet.
Je me sens toujours un peu bizarre, c'est surréaliste. Je voulais juste venir me recueillir, puis je vais rentrer à la maison et laisser les gens faire la fête. si c'est ce qu'ils veulent.
Et les fêtards étaient bien là 36 heures après le carnage, peu impressionnés par un énorme dispositif de sécurité. On n'a pas peur, dit Bill, on est américain, ajoute sa femme Katie, une bière à la main.
On voulait être là ce soir pour montrer que ça ne nous empêchera pas de faire la fête. On doit montrer notre résilience.
Mais tout le monde ne savoure pas cette fête précoce. Austin passe à toute vitesse en brûlant un bâton de sauge.
J'imagine que vous pourriez dire que je purifie Bourbon Street un petit peu. Mais je ne bois pas ce soir, je ne danse pas. J'ai été affecté probablement plus que ça n'aurait dû. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis en miettes émotionnellement depuis l'attaque.
Pour autant, cet habitant du quartier ne blâme personne. Quelle est la bonne réaction face à une tragédie, se demande-t-il. Difficile de répondre. La Nouvelle-Orléans, Loïc Louret, Radio Vatican.
Le chef de la diplomatie américaine attendu lundi prochain visite en Corée du Sud, l'un des principaux alliés des États-Unis en Asie-Pacifique. Une visite pour Anthony Blinken qui intervient alors que le pays du matin calme est traversé par une profonde crise politique. Ce matin, des policiers venus déloger le président déchu Yoon Suk-yeol ont été repoussés par ses gardes du corps. Un mandat d'arrêt a été émis le 31 décembre contre le président sud-coréen pour sa tentative d'instaurer la loi martiale. C'était le 3 décembre dernier. La Chine, elle, promet de poursuivre son ouverture économique en cette année 2025, malgré les incertitudes à venir, et notamment l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, qui promet l'instauration de nouvelles taxes sur les importations chinoises. Parmi les priorités annoncées ce vendredi par Pékin, le soutien à l'emploi, l'amélioration du système de santé ou encore le développement des énergies renouvelables. Aux Philippines, rien ne va plus entre le président Ferdinand Marcos Jr. et sa vice-présidente Sara Duterte. Celle-ci a été en effet démise ce vendredi du Conseil de sécurité nationale. C'est un nouveau bras de fer entre les deux dynasties qui dominent la vie politique de l'archipel philippin. D'abord allié, Marine Henriot, le président et sa vice-présidente sont désormais à couteau tiré.
Oui, Olivier, ce Conseil de sécurité nationale est en fait un bureau de proche du président qui le conseille sur les affaires donc de sécurité. Et aujourd'hui, le président Marcos l'a réorganisé et il estime que la vice-présidente n'est pas, je cite, « pertinente pour ses responsabilités ». Vous l'avez dit, c'est un nouvel épisode de cette guerre clanique désormais à la vue de tous. Tout avait pourtant bien commencé. Sara Duterte, la fille de l'ancien président, était pressentie favorite à la présidentielle. C'était en 2022, mais elle s'est retirée et alliée à Ferdinand Marcos Jr., lui-même fils de l'ancien dictateur. Sara Duterte qui s'était assurée du poste de vice-présidente. Mais ces derniers mois, l'alliance des deux dynasties a explosé. Des menaces de mort ont été proférées de la vice-présidente envers le président. Une enquête est en cours. Et si la querelle s'accélère, c'est qu'arrivent les élections de mi-mandat. Elles auront lieu en mai. Elles sont cruciales pour le président Marcos Jr. C'est un test grandeur réelle de sa popularité. Mais la famille Duterte pourrait bien décider de rompre le ticket et de briguer la course vers le Sénat, ce qui affaiblirait le clan Marcos pour la prochaine présidentielle, c'est en 2028, Olivier.
Merci beaucoup, Marine Henriot. C'est une première sur le continent africain, je vous le disais en titre. Le Sénégal et la Mauritanie ont annoncé l'ouverture du premier puits d'exploitation d'un champ de gaz commun entre les deux voisins. Les précisions de notre correspondant à Dakar, Abdoulaye Diédou.
C'est avec une note positive que le Sénégal et la Mauritanie ont entamé l'année 2025 en officialisant leur entrée dans le cercle restreint des nations productrices de gaz à la suite de l'ouverture du premier puits de production de gaz tiré du projet Grand Tortue Ameyim. Cet ambitieux projet GTA porté par la multinationale britannique BP en partenariat avec les géants américains Kosmos Energy et les gouvernements du Sénégal et de la Mauritanie puisent ses ressources dans des réservoirs situés à 120 km au large des côtes des deux pays. L'ouverture de ce premier puits du projet GTA marque le couronnement des opérations techniques et ouvre la voie au démarrage de la commercialisation du gaz. Se réjouissant de ce projet transfrontalier, le ministre sénégalais de l'énergie, du pétrole et des mines, Biram Souley Diop, d'affirmer que l'ouverture de ce puits de gaz matérialise la vision commune avec la Mauritanie de faire du projet GTA un modèle de collaboration énergétique réussi. Son homologue mauritanien Mohamed Ould Khaled parle lui d'un partenariat qui démontre la capacité des deux pays à atteindre des objectifs ambitieux durable. A noter que le bloc GTA abrite des réserves estimées à 425 milliards de mètres cubes de gaz, une quantité pouvant garantir une production initiale de 2,5 millions de tonnes par an de GNL. Abdoulaye Diédou, Dakar, Radio Vatican.
Voilà, et c'est en Afrique de l'Ouest que s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous de l'information sur nos ondes. Ce sera bien sûr à 18h, heure de Rome. Je vous souhaite d'ici là une excellente après-midi.